le jeune garçon de 22 ans qui était vraiment pas bien et qui demandait à rentrer chez sa mère, je pense que ça restera un des visages de la guerre.
Savoir que les gars sont mis comme ça en bétail devant tout le monde, c'était bizarre.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Clémence Dibou et Clément Grosdenier. Ils nous racontent les crimes de guerre en Ukraine, comment des témoignages sont instrumentalisés et comment on analyse une vidéo de civil abattue. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Clément.
Salut.
Vous êtes rentré d'Ukraine il y a tout juste une semaine. Vous avez passé à nouveau 3 semaines à Kiev. Vous y étiez juste avant le début de la guerre. On a parlé dans un autre podcast avec toi, Clémence.
Deuxième voyage en Ukraine. Donc là, j'ai les tampons sous les yeux. Donc on est parti en voiture le 13 février d'Ukraine pour traverser la frontière polonaise. On est arrivé en avion. Là, il y a le petit tampon.
Donc ça, c'était au début de la guerre.
Ouais, ça n'existe plus, hein, l'avion. Et on a retraversé la frontière Pologne-Ukraine. Un mois après en être parti, un mois tout pile, le 13 mars. Et effectivement, on l'a repassé dans l'autre sens. Et c'est marrant, il y avait beaucoup moins de monde dans ce sens-là. Et à pied cette fois, effectivement. Et c'était pas facile avec tous les bagages.
Pourquoi à pied ?
Parce que les voitures de location polonaise ne passent pas à la frontière. Hein. Généralement, pas trop envie, quoi. Il faut user de subterfuges et ça ne marche pas. Donc, du coup, on y va à pied. Et puis après, on a fini le voyage jusqu'à Lviv dans un espèce de minibus avec... des Ukrainiens qui vendaient des billets 20 euros pour aller jusqu'à Lviv. Tous vraiment hyper serrés.
C'est pas facile, ça nous a bien fatigués. Ouais. Et en plus de ça, on a garé la voiture à la frontière Medica en Pologne, en se disant, bon, le parking est surveillé, on va la récupérer dans 15 jours. Et quand on est revenu, quand on a repassé la frontière, il n'y avait plus de voiture. Parce qu'en fait, la compagnie de location est revenue la chercher sans nous dire. On a dû repasser encore à pied.
Voilà, et puis Camille a payé le prix de la voiture, enfin, oui. Failli payer le prix de la voiture, n'était pas loin. Donc, ouais.
Pourquoi ?
Ça pique.
C'est la caution parce que vous l'avez pas
enlevé. Exactement. Bon, la boîte a été compréhensive.
Ouais, heureusement.
C'est en train de s'arranger.
Qu'est-ce qui a changé du coup en un mois entre le 13 février et le 13 mars ?
Kiev est devenu une capitale en guerre avec des checkpoints partout. C'est vraiment le premier truc visuel qu'on voit en arrivant.
Plus grand monde dans les rues. Il y a encore des produits dans les magasins, mais. Il y a vraiment quand même des rayons qui sont assez vidés. Et puis, tous les restaurants fermés, etc. Sauf quelques-uns par-ci, par-là, qui nous sauvent bien la mise. Puis pas d'alcool aussi.
Et oui, bon, d'alcool interdite quand on y était à Kiev, ouais.
Toi, Clément, tu es chef de car. Je fais juste une petite parenthèse pour que tu nous parles un peu de ton métier. Ça consiste en quoi quand tu pars en Ukraine avec Clémence ?
Avec Clémence, déjà, supporter Clémence, oui, c'est clair. C'est vraiment la partie technique, régler les lives, tout ça.
Faire fonctionner une AVOS dans une zone de guerre, c'est pas rien. C'est le moyen de transmission qui nous permet de faire des duplex. Et sur cette mission de 3 semaines, je ne me souviens. Oui, mais je me souviens pas d'un live que t'as raté.
Oui, mais bon.
Donc c'est pas mal quand même.
Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, il y avait beaucoup moins de réseau par rapport à la première mission. Et là, pour le coup, c'était vraiment galère de se connecter des fois. Après, c'est aussi j'étais un peu chef de car, c'est-à-dire chef de voiture, quoi. Donc j'ai fait de la conduite, beaucoup de conduite. Et puis un petit peu tout ce qui est les courses. Chef de cuisine aussi, à faire des pâtes à teuf et des petites pâtes tous les soirs.
Fait, normalement, tu gères la technique, on va dire. C'est ça, les moyens de transmission, les moyens de duplex et tout ça. Sauf que c'est un terrain compliqué où on est à 100% en train de travailler. On rentre à l'hôtel, la journée est terminée. Donc, il y a énormément de choses à gérer. Et le fait d'être 3, c'est super. Et c'est vrai qu'avec Camille, on s'est vachement beaucoup reposé sur Clément, sur plein de choses, sur plein d'aspects. Et c'est vrai que c'est tout le temps toi qui conduisais, par exemple. Et ça a l'air très bête, mais dans une zone où il faut qu'on assure notre sécurité. On sortait avec Camille, avec la caméra, pour aller filmer très très vite quelque chose. Et Clément, lui, avait le temps de mettre la voiture dans une position où on pouvait repartir s'il se passait un truc, et après de venir en deuxième caméra d'appoint. Donc c'était hyper important d'être 3.
T'es chef de car en France, d'habitude.
Ma première mission, il y a 2 mois, enfin en février, dans le Donbass, c'était ma première mission à l'étranger, parce que ça fait un an que je suis chef de car. Donc...
Ça fait un an qu'il est chef de car et c'est déjà son deuxième terrain de guerre.
Vous arrivez le 13 mars en Ukraine. Et quelques jours plus tard, vous diffusez une vidéo. Est-ce qu'on peut en parler ? C'est une vidéo de drone.
On voit une image de drone sur la ligne de front. On voit des soldats qui sortent d'un char, en tout cas qui sont à proximité d'un char, qui mettent en joue quelqu'un qui sort d'une voiture.
Pour connaître le contexte, en fait, c'est un volontaire de la défense territoriale ukrainienne qui nous a donné accès à ces images, des images de vidéosurveillance tournées par drone près du front, de la ligne de front dans le nord de Kiev le 7 mars dernier. Et effectivement, ce qu'on voit sur ces images, eh bien, c'est plusieurs voitures civiles, notamment avec un panneau écrit « Enfants », comme on a pu le voir sur le théâtre de Mariupol, qui font vite demi-tour. Il y en a une qui s'arrête.
Ils ont tiré dans la voiture, ouais.
Ils ont tiré dans la voiture, ce qui fait très certainement exploser le pneu de la voiture. Une personne sort, les bras en l'air, habillé en civil et se fait abattre à bout portant. Et le corps se fait traîner par des soldats. Voilà ce que dit la vidéo.
Comment est-ce qu'on arrive à voir ce genre de vidéo ?
C'est un volontaire, un réserviste de l'armée ukrainienne. Donc c'est pas un soldat, mais c'est un réserviste avec qui on a été en contact, qui a voulu d'abord nous rencontrer, avec qui on a fait un tournage, qui a vu qu'on était des journalistes crédibles selon lui, qui a décidé de nous montrer cette vidéo. Évidemment, il est partie prenante, il fait partie du côté ukrainien. Donc forcément, dans ce conflit, de toute façon comme beaucoup d'autres, si on a accès à des sources, c'est qu'on a un intérêt à nous le donner. Il faut être conscient de ça. Il nous a montré cette vidéo, il nous a montré la source de cette vidéo, il nous a expliqué pourquoi, selon lui, c'était un crime de guerre de soldats russes. On a estimé que c'était assez crédible, que ça avait un intérêt dans le débat. Et donc, en parlant avec la rédaction, on a décidé de la publier en donnant tout le contexte. Évidemment, c'était partie prenante, on ne pouvait pas le vérifier sur place, mais effectivement, ça paraissait assez cohérent et ça aurait pu documenter un crime de guerre. Il s'est trouvé que 15 jours plus tard, cette vidéo, elle fait partie donc de tout ce qui a été transmis à la procureure générale pour étude.
Comment vous avez réagi quand on voit cette vidéo ?
On est un peu distant par rapport à la vidéo, vu que c'est déjà un drone, on prend un peu de distance par rapport à ce qui se passe vraiment au sol. Puis ensuite, bah, c'est quand même à travers un écran, donc ça reste comme à travers le viseur d'une caméra, c'est... On prend de la distance aussi. Quand on finit toute la vidéo, ça fait quand même froid dans le dos qu'ils ont tiré comme ça sur un bonhomme. Il y avait un petit garçon et la grand-mère qui étaient derrière.
Et ça, on ne l'avait pas donné dans un premier temps comme information, ouais. Parce qu'effectivement, c'est des informations hyper sensibles. Et ça, cette partie-là, on n'avait pas réussi à la confirmer. On a donné à l'antenne ce qu'on avait réussi à confirmer et qu'on trouvait concordant.
Et justement, qu'est-ce qu'on montre à l'antenne ? Qu'est-ce qu'on en dit de cette vidéo ?
Il faut être hyper pédagogue, transparent et humble. C'est-à-dire expliquer tout le cheminement de comment on a eu cette vidéo, qui nous l'a donnée, parce que c'est aussi très important pour comprendre, que le téléspectateur comprenne dans quelles conditions on les a eues, pour en fait ce sujet-là ne soit pas un sujet en soi, mais que le sujet en soi pour le téléspectateur, c'est qu'il se fasse sa propre opinion de cette vidéo, en fait. Et donc, il lui faut tout le contexte. Une fois qu'il a tout le contexte, il peut très bien dire ouais, « bah, de toute façon, ils se sont fait manipuler, ils l'ont eu du côté ukrainien, donc c'est forcément faux ». Ou alors, il peut se dire « je regarde la vidéo, effectivement, ça me paraît quand même très tendancieux, assez bizarre ». Je sais que d'autres journalistes sont allés sur place et ont pu constater qu'effectivement, ça paraissait très concordant avec ce qui nous avait été dit.
Pourquoi et comment on qualifie cette scène, cette vidéo, de témoignage d'un crime de guerre ?
Si c'est avéré, c'est effectivement un crime de guerre. On ne tire pas sur un civil, a fortiori qui a les mains en l'air et qui est en train d'essayer d'a priori d'ouvrir le capot de sa voiture. C'est répréhensible, c'est puni par la loi et par la loi de guerre.
Ça fait partie du métier de journaliste aussi de documenter ces crimes de guerre ?
Oui, bah c'est là qu'on a l'impression effectivement de faire notre travail de la façon la plus primaire possible en fait. Quoi. Oui, il faut documenter, montrer au monde. Et comme on n'a pas de science exacte, c'est pour ça qu'il faut expliquer tout le contexte de cette vidéo. Pour qu'on puisse se faire un avis, pour que... Là, on a l'impression aussi de faire du journalisme qui peut faire avancer la façon dont le conflit est perçu. Pas seulement donner la parole à l'un, la parole à l'autre, expliquer qu'effectivement, attention, sur certaines vidéos, on voit des choses qui s'apparentent à des crimes de guerre et bah, ça peut faire basculer l'opinion publique, évidemment.
Il y a un autre crime de guerre auquel, du coup, vous avez assisté ou potentiellement un crime de guerre. Vous êtes invité à une conférence de presse à Kiev.
Alors, en fait, on s'est demandé ce que c'était que cette histoire de conférence de presse et je sais qu'il y en a eu au moins 3. Donc, c'était pas la seule. Quand on y est allé, nous, c'était 6 soldats russes faits prisonniers qui étaient... en conférence de presse devant des journalistes, conférence de presse retransmise en direct sur YouTube avec leur nom, leur prénom, visage pas flouté, rien du tout, et qui étaient appelés à s'exprimer et à évidemment à dire qu'ils désapprouvaient complètement Vladimir Poutine.
Il y a un malaise énorme dans la salle. En fait, on est convié à l'AFP locale, à l'AFP ukrainienne, et on découvre, eh bien, 6 soldats russes qui sont ici pour nous parler. Et puis, effectivement, autour de nous, derrière nous, il y a des gardes ukrainiens masqués, armés, qui sont là pour garder la salle. La tension est maximum. Ces 6 soldats, ils ont évidemment la mine défaite, abattus. Certains ont les yeux rouges. Il y en a un tout à l'heure qui a pleuré en parlant. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, dans quelles mesures ils sont amenés à s'exprimer, si c'est une volonté de leur part, si on les a forcés. Cette conférence, elle est retransmise en ligne. Il y a des photographes qui peuvent prendre des images de ces soldats.
Ça a l'air contraire aux conventions de Genève, comme ça. Parce qu'on n'expose pas des prisonniers en donnant leur nom, leur visage, et en les mettant potentiellement dans des situations compliquées, voire peut-être d'humiliation. Les autorités ukrainiennes se sont défendues en disant « Oui, mais c'est à leur demande, c'est eux qui ont demandé à faire ce mea culpa ». Impossible à vérifier. On sait que CNN a pu passer un entretien avec un soldat russe qui a dit qu'effectivement, c'est lui qui avait demandé très bien, ok. Nous, on s'est retrouvés face à 6 soldats dont un de 22 ans, deux de 26 ans, en pleurs, qui demandaient à rentrer chez leur mère. Et c'était vraiment très difficile, avec tous les photographes qui les prenaient en photo, mais sans vergogne. C'était vraiment compliqué. Alors, ils étaient tous en train de dire que Vladimir Poutine les avait mis dans une situation qui ne s'attendait pas à ça. C'était le message. Les éléments de langage étaient quand même hyper troublants parce que ça venait vraiment corroborer tous les éléments de langage du gouvernement ukrainien, à savoir, par exemple, quasiment tous les soldats nous ont expliqué qu'il fallait fermer l'espace aérien. Je ne suis pas sûre qu'un prisonnier russe, sa première pensée, c'est qu'il faille fermer l'espace aérien.
Ça a l'air scripté.
Ça, en tout cas, ça donnait un sentiment super malaisant. Je pense que tu l'as senti aussi. Parce que là, il n'était pas question de filmer. Hein, on venait voir un peu ce qu'il...
Complètement. Ouais. Les voix, en tout cas, commençaient à parler de leur situation, parce que je crois qu'en plus, ils nous parlaient du fait que ils avaient soit des ancêtres, soit de la famille, soit qu'ils étaient avant de Crimée, etc. Enfin, par rapport à l'Ukraine. Ça avait quand même l'air un peu scripté, ouais, certaines séquences. Après, il y a les côtés en pleurs et tout, qui m'étaient vraiment mal à l'aise. Savoir que les gars sont mis comme ça en bétail devant tout le monde, c'était bizarre.
Celui de le jeune garçon de 22 ans qui était vraiment pas bien et qui demandait à rentrer chez sa mère, je pense que ça restera un des visages de la guerre. Pour moi, de cette guerre-là, c'est pas une image traumatisante d'un cadavre, par exemple, mais c'est son regard de détresse, vraiment, ça restera un des images de la guerre. Et en plus de ça, ce jeune soldat russe, je ne sais pas ce qui va advenir de lui. On essaye, j'essaye d'avoir des contacts avec les autorités ukrainiennes et tout ça, parce qu'ils ont désavoué publiquement Poutine. Donc si jamais ils sont échangés contre des prisonniers ukrainiens, ça va pas bien se passer pour eux en Russie. S'ils restent en Ukraine, ça risque de pas bien se passer non plus pour eux. Quel avenir ont-ils ? Ces jeunes qui ont, donc pour celui qui avait 22 ans, et qui avait vraiment l'air de savoir qu'il était condamné.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez de cette conférence de presse lunaire, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
On a fait un direct en plein milieu de la conférence pendant que Camille est restée là-haut. Donc nous, ça nous a permis de prendre un peu l'air et d'en parler vite fait comme ça, et justement on s'est dit que c'était très malaisant et on en a parlé directement. On est remonté, bon après finalement ça s'est fini 5 minutes après, mais on est remonté, déjà l'ambiance était encore différente. Je crois que quand on est parti pour faire le direct, justement, ils étaient tous en larmes. Après, finalement, ça a repris un peu de souffle, mais ouais.
Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on dit ?
Alors justement, on a appelé la rédac pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. On avait expliqué à la rédac qu'il y avait un canal qui diffusait ça en ligne, que ça nous paraissait pas forcément très légal. On a fait quelques images à toute fin utile, en demandant à la rédac ce qu'il fallait faire de ces images. La rédac nous a dit on ne diffuse rien, puisqu'on ne sait pas dans quel contexte c'est fait ou quoi. En tout cas, effectivement, il est important d'en parler, donc vous allez raconter ce que vous avez vu. Et donc, c'est ce qu'on a fait en essayant d'écrire sans images. C'est contre nature à la télé. Sauf que c'est important d'expliquer aussi que ça nous a paru lunaire, bizarre. Et il faut bien comprendre que ces larmes de mea culpa face à ce que Vladimir Poutine leur avait demandé, il n'y avait pas d'idée qu'ils disaient le contraire de ce qu'ils pensaient. Mais ça paraissait vraiment... Ils n'étaient pas juste... Bon allez les gars, on est là pour vous faire un mea culpa. Ils se savaient condamnés. Pour moi, ils se savaient condamnés et c'était ça les larmes en fait. Puis on ne sait pas dans quel contexte ils ont été arrêtés. Rien ne nous a été expliqué. Impossible de leur parler à la fin de la conférence en privé. Ça y est, il n'y a pas eu de négociation possible. C'était impossible. Donc ça paraissait quand même très très compliqué. Et je ne sais pas ce qu'il en était des médias qui étaient dans la salle, médias ukrainiens notamment. Mais en tout cas, il était possible de les filmer sans aucune restriction. Et derrière nous, il y avait des soldats ukrainiens complètement masqués avec interdiction absolue de les filmer eux.
Une fois que vous faites ce papier, ces duplex, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous continuez à en parler ? Est-ce qu'on réfléchit à couvrir cette information, cette conférence de presse différemment ?
On a fait quelques duplex là-dessus pour en parler, effectivement. Je sais que d'autres médias aussi en ont parlé. Mais je trouve que ce sentiment de malaise veut dire quelque chose. Donc, il faut peut-être expliquer aussi pourquoi on a été mis mal à l'aise, pourquoi ça ne nous a pas paru tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire dans la guerre aussi ? Parce qu'évidemment, c'est d'abord une guerre de communication, ça c'est sûr. Et dans cette guerre de communication, le fait d'entendre des Russes dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Vladimir Poutine, c'est quelque chose que les Ukrainiens aiment à entendre.
Comment nous, en tant que journalistes, du coup, on arrive à avoir notre place dans cette guerre de communication ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut savoir être humble et savoir que si on a accès à une information, c'est que notre source a un intérêt à nous le donner. Une fois qu'on se l'est dit, qu'on le sait, qu'on en est conscient, on peut quand même travailler. L'armée ukrainienne, par exemple, on n'y a eu jamais accès. Ceux à qui on a accès, ce sont les volontaires, les réservistes. Et là, on a eu beaucoup accès à eux. Ils nous ont emmenés, par exemple, dans un village qui a été complètement bombardé. Et ils nous ont montré un morceau de missile russe écrit en russe en disant « Bah voyez, c'est bien la preuve que ce sont les Russes qui bombardent des populations civiles, dont acte. » On a fait un reportage dessus, évidemment. leur but était de montrer des morceaux de missiles étaient arrivés dans des zones de population ukrainienne. Et donc, effectivement, forcément, on est toujours... C'est pas instrumentaliser le mot, c'est pas ça. Mais on est toujours pris à partie par une source. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire notre travail. De toute façon, les conflits, c'est très compliqué. Les lignes de front, c'est très rare qu'on y arrive tout seul. Et si on y arrive tout seul, c'est qu'on n'est pas très prudent. Donc, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Ça n'empêche pas d'avoir des informations à délivrer de façon neutre et impartiale, même si la source, elle est forcément d'un côté. Et comme on était du côté ukrainien, on a eu accès qu'à des sources ukrainiennes, ça c'est sûr.
Je voulais rebondir aussi sur le coup du « on n'a pas accès à l'armée ». Parce que bon, j'ai vu des petits commentaires par-ci par-là, des fois qui disent que du coup on est sur un terrain de conflit, reporter de guerre, mais en même temps on ne filme pas de conflit, enfin d'échanges de tirs directs et tout. C'est qu'en fait on n'y a même pas accès, parce que du coup si on n'avait pas accès à l'armée, c'est que tous les militaires de l'armée ukrainienne, hors volontaire du coup, hors réserviste, étaient sur le front en fait. Donc on pouvait pas leur parler et tout ça c'était déjà bloqué par vraiment les derniers volontaires et on n'y aura jamais accès en fait à ça.
Ça fait une semaine que vous êtes rentré d'Ukraine. Est-ce que vous savez un peu comment ça va se passer vos prochains jours, vos prochaines semaines? Est-ce que vous allez repartir?
Un énorme point d'interrogation sur notre vie. Alors il y a toujours il y a forcément une relève qui se met en route et qui s'est déjà mis en route depuis plusieurs rotations vu que c'était notre deuxième fois. Donc on s'attend forcément à repartir une troisième fois. Maintenant quand, plus ou moins proche, je ne sais pas. Après, la fatigue commence à se faire ressentir.
Et la fatigue, c'est l'ennemi numéro un de ce genre de terrain, parce qu'on est toujours en train de jauger risque, intérêt de l'antenne, et il ne faut pas être fatigué pour prendre ses décisions. Mais si, il y a un départ qui se prépare, et je suis carrément en train de refaire ma trousse de secours. Hein, elle est là avec moi. Là,
donc tu as un petit sac bleu, il y a quoi dedans?
Il y a un garrot israélien, donc c'est les garrots pour les débutants, en fait, on va dire, des trucs hyper simples à faire. Il y a du boot parce que ça peut toujours servir, il y a un cale-porte au cas où pour fermer les portes, une lumière, un pansement compressif, c'est comme ça qu'on dit ? Pansement compressif d'urgence, un couteau évidemment multi-usage, une lumière rouge qui se voit pas trop dans la nuit et une couverture de survie. Et évidemment, faut encore la compléter. Donc il y a un départ qui se prépare. Tout peut servir, donc qu'est-ce qu'on a pris d'improbable la dernière fois qui a pu nous servir ? Enfin, c'est pas du tout improbable, mais par exemple, j'avais pris au cas où des pastilles pour purifier l'eau, on s'en est bien servi, par exemple. On est revenu pas malade.
Merci beaucoup, Clémence et Clément. Bon courage pour le prochain départ. À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast qui raconte différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.